France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Édouard Philippe s'est rendu hier soir à Rouen, 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, usine classée Seveso. Le Premier ministre a insisté une fois encore sur la transparence totale des autorités quant aux risques potentiels sur place. Les odeurs sont gênantes, mais pas nocives, a-t-il déclaré. Le gouvernement promet également une indemnisation totale pour les agriculteurs qui ne peuvent pas vendre leur production. Par ailleurs, notons qu'une plainte a été déposée par le groupe Lubrizol pour destruction involontaire par explosion ou incendie. Accident industriel, comment vivre avec le risque? Voici la question que Guillaume Erner posera à ses invités dans les matins de France Culture. Ce sera à partir de 7h40, tout à l'heure. L'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a été condamné à 1 mois de prison avec sursis et à 5 000 euros d'amende. C'était hier pour violation du secret professionnel. La peine a été prononcée par la Cour de justice de la République car à l'époque des faits, Jean-Jacques Urvoas était encore garde des Sceaux. Il aurait transmis au député Thierry Solaire des éléments sur l'enquête pour fraude fiscale qui le visait. Après Aigle Azur, voici XL Airways. La compagnie aérienne a interrompu hier tous ses vols en attendant la décision du tribunal de commerce de Bobigny prévue demain sur une éventuelle reprise. Mais il n'y a encore aucune offre ferme. 570 salariés sont menacés. La Chine a donné il y a 2 heures environ le coup d'envoi des célébrations du 70e anniversaire de la fondation du régime communiste. 70 coups de canon ont donc été tirés depuis l'immense place Tiananmen au cœur de Pékin. Et c'est depuis la porte Tiananmen d'ailleurs que Mao Tse-tung avait proclamé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Des cérémonies en grande pompe sont prévues aujourd'hui. Dans le même temps, l'opposition à Pékin s'apprête à manifester de l'autre côté de la frontière à Hong Kong. La police redoute des affrontements très violents. Et puis soulignons la mort de Jessie Norman, célèbre cantatrice américaine. Emportée par une septicémie, elle avait 74 ans. Jessie Norman était mondialement connue pour sa voix de soprano. Elle avait notamment repris la Marseillaise en 89 pour le bicentenaire de la Révolution française. Nous reviendrons sur sa carrière, sa longue carrière, dans le journal de 6h30.
Le groupe des 6 à l'auditorium de Radio France. Du 4 au 12 octobre, Mico Franck et l'Orchestre Philharmonique de Radio France nous plongent dans l'univers du groupe des 6. Musique claire, insouciante et légère, mélodie franche, Le Bœuf sur le Toit, Pacifique 231, Scaramouche. Découvrir ou redécouvrir Arthur Honegger, Darius Milhaud, Germaine Taillefer, Francis Poulenc, Georges Auric et Louis Duret. Réservation maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture. Toufik Hakem est à nos côtés pendant une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel, émission que vous pouvez écouter tous les matins tôt à la radio de 6h à 6h30 ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast de l'émission disponible entre autres en passant par l'application de Radio France. Demain s'ouvre à la Fondation Vuitton à Paris une grande exposition consacrée à Charlotte Perriand. Et enfin, oui, enfin, puisque c'est la première fois qu'on honore comme il se doit cette pionnière de la modernité, architecte et designer à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition. L'expo qui retrace la vie et le travail de cette visionnaire à plus d'un titre s'accompagne aussi de la sortie d'un essai biographique signé Laure Adler chez Gallimard, d'un film sur son œuvre du début jusqu'à la fin du XXe siècle, distribué en DVD, et d'une bande dessinée aux éditions du Chêne qui traite de sa période japonaise. Le réveil culturel de ce matin accueille à cette occasion la fille de Charlotte Perriand, Pernette Perriand, qui a participé à l'exposition de la Fondation Vuitton, et Charles Berberian, l'auteur de la bande dessinée. Charlotte Perriand, une architecte française au Japon, 1940-1942, aux éditions du Chêne.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
L'exposition donc s'ouvre demain. Charlotte Perriand, enfin célébrée comme il se doit. Pernette Perriand, vous êtes la fille bien sûr de Charlotte Perriand. Vous avez participé avec un comité scientifique à cette exposition. Vous avez décidé d'opter pour retracer sa vie, son œuvre d'une manière chronologique, en restituant un peu ses œuvres, en reconstituant d'ailleurs ses œuvres. Bonjour Charles Berberian.
Bonjour.
Et vous avez découvert l'histoire extraordinaire de cette pionnière de la modernité à l'occasion d'une rencontre d'ailleurs. C'est une commande, cette bande dessinée
oui.
Aux éditions du Chêne.
Oui, j'ai été contacté par Emmanuel Levallois, le directeur éditorial du Chêne, qui m'a proposé de réfléchir à un projet autour de Charlotte Perriand. On savait pas si c'était un texte illustré ou une bande dessinée au départ. Et j'ai rencontré à cette occasion Pernette Perriand et Jacques Barsac, qui m'ont donné l'ouvrage autobiographique de Charlotte Perriand, que j'ai lu. Et puis le catalogue raisonné de son œuvre. Et également un livre fascinant qui m'a tout de suite fasciné en fait, qui est le livre de Jacques Barsac autour de la période japonaise de Charlotte. Et au début, j'avais commencé par refuser en disant non, moi les bio, j'aime pas trop ça en fait. En tant que lecteur, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Et puis en lisant le livre de Charlotte, j'ai découvert ce personnage incroyable.
Que vous ne connaissiez pas, donc?
Je ne connaissais absolument pas. Et j'étais fasciné par sa personnalité, par sa finesse, sa sensibilité, son intelligence. J'ai découvert quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Et cette période japonaise, je l'ai trouvée effectivement très, très, très puissante, très intéressante, puisque ça se passe en plein milieu de la guerre. Et elle arrive au Japon juste avant que le Japon déclare la guerre aux États-Unis. Donc il y a une concordance à la fois historique, mais aussi quelque chose de très fort dans le parcours intime de Charlotte qui m'a très très intéressé. Et puis tout bêtement, je me suis dit oui, bah passer un an à travailler autour de ce personnage, je pense que c'est quelque chose qui va me plaire. Et j'ai non seulement je l'ai pas regretté, mais quand j'approchais de la fin de la BD, je faisais souffrir tout le monde parce que j'avais pris du retard. Mais j'étais tellement triste d'arrêter, de passer à autre chose, que je pense que j'ai poussé un peu.
Pour rester le plus longtemps
possible. Jusqu'au dernier retranchement, le retard.
Charlotte Perriand. Mais alors, Charlotte Perriand, expliquez-nous pourquoi.
Pardon,
oui, vous voulez répondre à Charles Perriand.
Oui, je vais lui répondre parce que je crois que vous êtes allé aussi au Japon.
Oui.
Et pour ressentir, oui. Je ne sais pas si vous connaissez le Japon.
Sur la trace de votre
mais
mère.
Un peu sur la trace de Charlotte.
Oui.
Et ça, je trouve ça formidable.
Alors, reste la question. Alors, aujourd'hui, maintenant qu'on la célèbre, une exposition, je rappelle, qui s'ouvre demain, des livres, un film, une bande dessinée, maintenant qu'on connaît un peu son œuvre, sa vie, on se dit, mais pourquoi on ne l'a pas connue? Pourquoi elle n'a pas été reconnue avant? Pourquoi ne la connaissait pas votre mère? On connaît tous à peu près Hélène Gray. Bon, mais le nom de votre mère ne sortait qu'à l'occasion d'une évocation du Corbusier. Or, ce qu'on apprend en lisant la vie et le parcours de votre mère, c'est que elle s'est imposée en dehors du Corbusier et même, on peut le dire, contre le Corbusier. Hein, la première fois
oui,
qu'elle
ça,
va voir le
fait.
Corbusier, ah. Oui, il la renvoie presque. Hein, il la renvoie en lui disant ici, on ne fait pas de broderie.
Oui, tout à fait.
Donc, elle a été obligée d'aller, de prouver qu'elle avait des choses à dire, à exprimer, elle a exposé, elle a été primée, c'est là que le Corbusier va la récupérer, et de toute manière, la carrière de votre mère va continuer, y compris quand elle va quitter le Corbusier, le maître.
Oui, elle est restée 10 ans avec le maître, et elle est rentrée chez lui comme associée pour les meubles iconiques qui ont été exposés en 1929 au Salon d'automne. Et quand elle est rentrée chez Le Corbusier, elle est rentrée comme associée et comme étudiante en architecture.
L'exposition raconte sa vie et son œuvre. Mais alors, comment on peut raconter en exposant
Mais l'exposition ne raconte pas que la vie de Charlotte et son œuvre.
Oui.
Elle raconte surtout l'exposition, et c'est ce qui est vraiment, pour moi, ce que vous allez découvrir, c'est effectivement Charlotte Perriand, architecte, designer, urbaniste, photographe, parce qu'elle touchait à tout. Elle n'était pas seulement designer. On la connaît beaucoup plus comme ça, mais ce n'était pas vraiment, vraiment Charlotte. Vous allez découvrir dans cette exposition, c'est un petit peu le tracé de l'exposition, la vie de Charlotte, mais avec ses créateurs avec qui elle a travaillé, qu'elle a fréquenté. Fernand Léger, qui était un ami intime de Charlotte, Picasso, Calder, bien sûr Le Corbusier, Miro, Sonia Delaunay, enfin, beaucoup, beaucoup d'artistes. Et vous allez les voir tout le long de l'exposition, jusqu'aux artistes japonais, Domoto, Teshigahara, Noguchi.
Espace de vie, c'est ainsi que vous vouliez présenter l'œuvre de votre mère, Charlotte Perriand.
Oui, parce que pour elle, ce qui était important, c'était l'espace dans lequel on vit et cet espace qui est complètement décloisonné, ouvert sur l'extérieur, avec toujours le rapport intérieur-extérieur, la lumière.
Alors, on va découvrir, au fur et à mesure qu'on lit son histoire, qu'on voit les objets, les pièces que vous avez décidé d'exposer. Certaines d'entre elles, une bonne partie d'entre elles, sont reconstituées. On va en parler justement avec vous, Pernette Perriand. On s'aperçoit que c'était non seulement une créatrice de génie, mais elle était féministe et écologiste avant l'heure. Mais d'abord, comment vous avez conçu cette exposition?
Alors, ça fait 4 ans qu'on travaille déjà sur cette exposition. 4 ans où nous sommes 5 commissaires. Jacques, bien sûr, est commissaire, je suis commissaire, Sébastien Chéruet, Gocalpe et Gladys Fabre. Nous sommes donc 5 commissaires et depuis 5 ans, mais vraiment 4 ans, on travaille sur cette exposition. Cette exposition, il y a eu beaucoup d'allers et retours parce qu'il fallait qu'elle soit fluide par rapport au public qui allait regarder cette exposition, que le public ne s'ennuie pas et qu'il n'y ait pas trop d'œuvres à lire. Donc, il y a beaucoup de tableaux à voir, de reconstitutions. C'est une balade pendant 70 ans de vie. On rentre d'abord dans la première pièce où on va montrer les grands créateurs avec qui elle a travaillé. Vous allez frontalement avoir une très grande pièce de Léger. Vous allez avoir Picasso, Le Corbusier et Calder.
Charles Verberian.
Oui, en fait, il faut replacer dans le contexte, c'est-à-dire que quand Charlotte commence à l'âge de 24 ans, 25 ans à travailler avec Le Corbusier, mais elle avait déjà commencé à créer notamment son premier tube, on va dire, c'est le bar sous le toit. C'était même avant d'intégrer l'atelier de Le Corbusier. C'est un bar qu'elle a façonnée, imaginée pour chez elle. Donc elle habitait sous les combles, donc c'est sous le toit, et c'est un bar où qu'elle a conçu pour recevoir ses amis, en s'arrangeant pour que tout le monde puisse tourner autour de ce bar, boire des coups, sans, elle pouvait cuisiner en continuant à discuter, donc il y avait une espèce de répartition de l'espace en plus extrêmement bien conçue et utile. Dans un tout petit endroit, quoi. Donc à cette époque-là, Picasso n'est pas la superstar qu'il est devenu après, Fernand Léger non plus. C'est une bande de copains qui traînent ensemble et qui sont entre les deux guerres dans le Paris des années folles et avec cette envie de tout réinventer, de tout changer. Et ce qu'on perçoit pas non plus aujourd'hui, c'est que ces gens-là n'étaient pas très appréciés à l'époque, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait très très peu de gens qui appréciaient les tableaux
de Léger
ou de Picasso, même Picasso. Et elle-même, quand elle s'est mise à créer avec Le Corbusier, ils avaient du mal à éditer leur création. Donc, c'est par après que ces gens-là sont devenus aussi importants. Mais en 1927-1929, ils galèrent, ils gagnent pas grand-chose. Elle passe son temps à travailler pour gagner des clopinettes, mais elle s'en fout, elle fait ce qu'elle aime.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Demain s'ouvre à la Fondation Vuitton à Paris la grande exposition consacrée à Charlotte Perriand, le monde nouveau de Charlotte Perriand. Nous sommes avec sa fille Pernette Perriand qui fait partie des cinq commissaires de cette exposition. Une première, hein. D'ailleurs c'est la première fois qu'on fait une exposition de cette envergure consacrée au travail de votre mère en tant que designer, en tant qu'architecte, en tant qu'artiste.
Tout à fait.
Et donc, comment résumer cette histoire? Avec quelle pièce on résume le monde nouveau de Charlotte Perriand?
Alors, c'est déjà ce monde nouveau qu'on a voulu exprimer à la Fondation. D'abord, oui, effectivement, on n'aura jamais autant d'espace pour exprimer le travail de Charlotte, pour exprimer ce monde nouveau. C'est une chance absolument extraordinaire que nous avons eue grâce à la Fondation de pouvoir faire cette exposition. Ce monde nouveau, c'est en opposition avec le monde ancien. Elle est là avec ses créateurs. Et vous allez voir pendant toute l'exposition des œuvres de tous les créateurs qu'on a parlé tout à l'heure.
Et donc, comment déambuler dans cette exposition, Pernette Perriand?
Tout à l'heure, vous avez parlé de, effectivement, on commence par cette salle d'introduction. Après, vous allez avoir sa première réalisation, qu'elle barre sous le toit, où elle a créé pour elle la fameuse salle à manger, avec le siège tournant, avec le tabouret de salle de bain, ses pièces ont été réalisées avant qu'elles soient associées avec Le Corbusier. Et c'est en allant voir Le Corbusier qu'elle va montrer qu'elle a déjà réalisé et qu'elle a déjà créé des meubles en tube, ce qu'il lui voulait avoir pour mettre dans ces villas, dans ces constructions. Et c'est comme ça qu'elle va rentrer chez Le Corbusier. Donc, une fois rentrée chez Le Corbusier, en 27, elle va élaborer les meubles, les fameux meubles qui sont connus aujourd'hui, les meubles Corbusier, Jeanneret, Perriand, et qui vont être exposés au Salon d'automne 29. Ce Salon d'automne, c'est la première grande reconstitution que nous avons faite. Cette reconstitution montre, on rentre à l'intérieur de ce salon qui fait 90 mètres carrés. Tout est ouvert, il n'y a pas de cloison. L'œil passe, vous n'êtes pas enfermé. La salle de bain est dans la chambre. C'est quand même assez extraordinaire en 29 d'avoir une salle de bain dans la chambre. La cuisine est ouverte sur la grande salle et vous allez découvrir ce volume en rentrant dedans. J'avoue que ça fait 90 ans quand on l'a reconstitué, quand on est rentré dedans. C'est un choc.
Pernette Perriand, qu'est-ce qu'elle utilisait comme matériau, votre mère?
Alors, tout était possible. Il n'y a pas simplement le bois. Souvent, on pense Charlotte, on dit Madame Bois. Non, pas du tout. Le bois, quand elle était au Japon en 40, il n'y avait pas autre chose que du bois et du bambou, donc c'est le bois et le bambou. En 29, c'était le tube chromé, rutilant, parce que c'est comme les phares de voiture. Pour elle, c'était quelque chose, c'était la modernité. Elle a utilisé aussi la tôle émaillée, elle a utilisé la matière plastique, elle a utilisé le verre. Vraiment, tout est possible. Et à la fin de sa vie, elle voulait utiliser le carbone et les matières molles de la NASA. Simplement, c'était un peu cher. Donc ça, elle n'a pas pu le faire.
Et pour les couleurs, elle voulait des couleurs vives.
Et les couleurs étaient très vives. Pour son studio à Saint-Sulpice, avec son tube chromé du siège tournant, c'était du rouge. Vous allez voir, du reste, à l'exposition, ces petits sièges tournants en rouge, un rouge pétant, c'est magnifique.
C'était quoi l'idée de votre mère Charlotte Perriand, c'était de faire quelque chose de nouveau, d'accessible, de beau, avec de nouvelles couleurs. Elle venait avec quelle inspiration?
Elle voulait construire un petit peu le monde nouveau et le monde pour tous. Peut-être qu'elle, quand elle a créé aussi ses meubles, ça n'intéressait personne. Ces meubles ont toujours été, par exemple, dans des habitations de Le Corbusier. Mais les commanditaires n'aimaient pas ces meubles. On les prenait parce que c'était l'époque, on en parlait. Mais vraiment, l'amour de ces meubles, je ne pense pas. Quand on regarde justement toutes les archives de l'époque, on se rend compte que aujourd'hui, on apprécie ces meubles à cette époque, pas du tout. Mais Charlotte, quand elle les a créés, Il y avait plusieurs finitions. Vous aviez le cuir si vous aviez de l'argent, mais vous avez de la corde quand vous aviez pas beaucoup d'argent, mais la structure était la même. Donc, elle a toujours travaillé, d'abord, pas pour des grandes institutions ou autres, mais travailler pour l'habitat. Pour elle, l'habitat de l'homme était quelque chose de très important.
Est-ce qu'on peut parler d'un style, Charlotte Perriand ?
Bonne question. Je ne sais pas s'il y a un style, mais pour elle, le vide était quelque chose de très important. Et donc, pour Charlotte, équiper un mur pour ranger toutes ses affaires et qu'elle ne traîne pas partout, vous aviez des murs complètement équipés, ou des casiers, ou des armoires, ou autres. Et puis après, vous vivez, vous, comme vous voulez à l'intérieur.
Pour elle, c'était...
Elle donnait un espace de vie avec des cloisons qui rangeaient tout.
C'était changer de vie, c'est ce qu'elle proposait avec ses créations?
Oui, parce qu'elle proposait que la femme soit pas complètement retirée de ses amis. Quand elle fait la cuisine ouverte, on est en communion avec vos invités, vos amis ou autres. On n'est pas à l'autre bout d'un couloir, enfermé.
Du coup, elle ressemblait à quoi, votre maison, Pernette Perriand? Il y avait son empreinte? Il y avait l'empreinte de votre mère?
Si vous voulez, quand on est rentré après-guerre, on était dans un appartement qui était complètement, disons, 1880, traditionnel, où on a peut-être pas bougé, on pouvait pas bouger l'architecture, ni l'architecture des fenêtres, ni rien. Donc, à l'intérieur, c'était justement ces cloisons complètement qui habillaient le mur et qui faisaient tout disparaître. À part ça, il y avait quoi? Une table, des chaises et puis rien d'autre.
Charles Berberian, vous qui avez consacré toute une bande dessinée aux éditions du Chêne, consacrée à cette période précise de la vie et de l'œuvre de Charlotte Perriand, c'est-à-dire au Japon, intitulée Charlotte Perriand, une architecte française au Japon 1940-1942. Alors bien sûr, vous racontez cet épisode qui est très important en soi, avec quelques flashbacks pour le rappeler qui était Charlotte Perriand, mais vous dessinez aussi quelques œuvres de Charlotte Perriand. Donc vous pouvez nous dire, pour vous, qu'est-ce qui représente ces œuvres?
Comme disait Pernette, c'est plus l'intention qui définit cette personnalité que l'œuvre elle-même. C'est-à-dire que elle ne concevait pas un meuble en partant d'un esthétisme ou d'un style. Elle partait de la fonction que pouvait avoir ce meuble, l'espace où il allait être intégré. Et donc, elle arrivait à modeler quelque chose, à concevoir quelque chose en fonction de cet espace et en fonction de l'utilité de l'objet. Et donc, c'est l'intention.
Mais par ailleurs, ils sont très beaux, ces objets, quand on les voit. Fauteuil empilable.
Parce qu'elle part aussi de cette idée que les objets vernaculaires, ceux qu'elle voyait dans la cuisine de ses parents, mais comme ceux qu'elle a trouvés au Japon, tous ces objets, tous ces meubles qui sont travaillés d'abord à partir de leur fonction n'empêchent pas d'arriver à un résultat esthétique. Au contraire, l'ergonomie d'un objet, c'est ça aussi la beauté d'un objet. Et ce qu'elle recherche, c'est cette pureté de l'ouvrage lié à une intention, c'est-à-dire une espèce d'axe le plus direct possible entre l'intention et le résultat final. Et c'est ça le coup de foudre qu'elle a avec le Japon, c'est-à-dire que toute cette recherche d'abord théorique avec Le Corbusier, que elle arrive à mettre en pratique, parce que elle sait comment ça marche une cuisine ou un intérieur, alors que Le Corbusier, lui, faire bouillir un œuf, il sait pas, quoi. Donc elle arrive au Japon et elle s'aperçoit que toutes ses recherches, toute cette projection dans l'avenir qu'elle a travaillé avec ses amis, eh bien, c'est la tradition japonaise, c'est leur culture, et c'est cette rencontre qui est une espèce d'effervescence pour elle et qui va la nourrir pour tout le reste de sa vie, mais pas seulement elle. En fait, il y a une sorte d'échange, et du coup, toute la création architecturale et du design japonais découle de cette rencontre Et je parle du Japon moderne, quoi. Enfin, Sori Yanagi, Junzo Sakakura, architecte et designer.
Juste ça, retour ça, des choses. Hein.
Mais c'est un échange, c'est un peu comme quand les musiciens se rencontrent. Il n'y en a pas un qui va avoir une ascendance sur l'autre. C'est cette rencontre qui va créer quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là au Japon.
Charles Berberian, pourquoi vous représentez le Corbusier comme vous le représentez, c'est-à-dire un corbeau? Pourquoi? Parce qu'elle a trop longtemps vécu à l'ombre du Corbusier que cette fois-ci, vous vous êtes dit, je vais pas le représenter, je vais juste représenter Charlotte Perriand.
Le Corbusier m'est pas très sympathique, ouais. Alors que le corbeau est un animal qui me plaît bien. Et je voulais pas faire de Le Corbusier quelqu'un d'entièrement négatif.
C'est l'homme ou son œuvre que vous voulez?
Non, j'aime le peintre.
L'architecte?
L'architecte moins, parce que je trouve qu'il a pas ce talent qu'a Charlotte d'être dans la fonctionnalité des choses. Il a une idée, il a un concept, il a un dogme même, et il essaye de l'appliquer, et il l'applique. Quand je dis il essaye, ce qu'il a réussi de mieux, c'est probablement sa dernière demeure, et je pense que c'est celle qui est la plus influencée par le travail de Charlotte Perriand.
Alors, on n'a pas le temps de parler de l'œuvre de Charlotte Perriand, juste préciser qu'elle était féministe avant l'heure, parce que c'était une des rares femmes à s'imposer dans ce milieu d'hommes. Mais est-ce que dans ce voyage au Japon, est-ce que l'intérêt pour l'écologie, ou du moins pour la nature, est né là, Charles Berberian?
C'est une femme qui aime la montagne, qui aime marcher, qui aime la nature. Donc c'est cet amour-là. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on pense pas à préserver une nature parce qu'elle n'est pas encore vraiment mise en danger.
Mais à vivre avec, si.
C'est avant son départ au Japon, elle passe ses week-ends avec Pierre Jeanneret à ramener des forêts, des plages, des galets, des bouts d'arbres. Elle aime ce que la nature produit comme objet, et elle les met au même plan que des peintures de ses amis ou des sculptures de ses amis, quoi.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
L'exposition Le Monde Nouveau de Charlotte Perriand s'ouvre demain à la Fondation Vuitton à Paris. Merci beaucoup, Pernette Perriand, d'être venue nous en parler ce matin. Le livre de Laure Adler sort aussi cette semaine. C'est une très bonne biographie, hein. Laure Adler raconte la pionnière du design. C'est édité chez Gallimard. Et puis, merci d'être passé, Charles Berberian.
Merci de m'avoir invité.
Charlotte Perriand, une architecte française au Japon. Cette bande dessinée est une coédition Arte et les éditions du Chêne. On se retrouve demain.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture. L'esprit d'ouverture.
Fin des années 50, il révèle au monde une iconographie des États-Unis loin du rêve américain et révolutionne l'art de la photo. Il nous a récemment quittés. Hommage à Robert Frank, à voix nue sur France Culture au fil de 5 entretiens. La photo, mais aussi les films, posant l'appareil pour la caméra, explorer toujours encore l'extérieur pour aller vers l'intime.
Pour moi, c'est toujours de faire voir les sentiments qui sont humains, les gens qui ont beaucoup de courage, ont des sentiments profonds.
Hommage à Robert Frank, à voix nue, de lundi à vendredi à 20h, en intégralité sur France Culture.
Tu es étudiant ? Rejoins le jury du prix du roman des étudiants France Culture Télérama.
Découvre 5 romans.
Rencontre les auteurs partout en France.
Et élis ton coup de cœur.
Pour t'inscrire, envoie la critique du dernier roman que tu as lu avant le 7 octobre.
Toutes les infos sur franceculture.fr et télérama.fr.
Avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous.
La cantatrice américaine Jessie Norman s'est éteinte hier à l'âge de 74 ans. Soprano de légende, elle a quitté l'État de Géorgie pour conquérir le monde. Vous l'entendrez avec un retour sur sa carrière dans un instant. Nous irons ensuite en Hongrie après le rejet par le Parlement européen de son candidat à la Commission. Si le gouvernement Orban proteste, il propose tout de même un autre nom. Analyse à suivre. Et puis nous vous expliquerons en quoi consiste le nouveau règlement à l'Assemblée nationale. Il entre en vigueur aujourd'hui. Et il donne plus ou moins de temps de parole aux députés de l'opposition. Elle était l'une des plus grandes figures de l'art lyrique. La cantatrice Jessie Norman est morte hier à New York à l'âge de 74 ans. Immense soprano, elle était notamment connue en France pour son interprétation de la Marseillaise lors du bicentenaire de la Révolution en 89. Jessie Norman, c'est aussi un destin américain. Née dans le sud des États-Unis, elle avait commencé sa carrière en Europe avant que son talent soit enfin reconnu chez elle, en Amérique. Retour donc sur sa carrière avec Grégory Phillips.
Comme ici au Carnegie Hall au début des années 90, Jessie Norman avait commencé par chanter du gospel dès l'âge de 4 ans dans la petite église d'Augusta, Géorgie, que fréquente alors sa famille. L'enfant est né en 1945 dans un sud encore ségrégationniste. Ses parents militent pour les droits des Noirs et ils l'envoient étudier le chant à Washington. Elle n'a que 16 ans. Puis 7 ans plus tard, elle part pour l'Europe. Premier contrat à l'Opéra de Berlin, puis Paris, la Scala de Milan, les plus grands festivals. Il faudra attendre le début des années 80 pour que Jessie Norman revienne triompher aux États-Unis. Elle fait ses débuts au Metropolitan Opera de New York en 1983, dans les Troyens de Berlioz. En 85, elle, la démocrate, chante pour la seconde investiture de Ronald Reagan. Puis la cantatrice enchaîne les galas et les récompenses, le Kennedy Center, l'Honor. Elle reçoit 4 Grammy Awards et la médaille nationale des arts des mains de Barack Obama en 2009.
Jessie Norman.
En 2014, la cantatrice avait publié ses mémoires « Tiens-toi droite et chante » dans lesquelles elle racontait le racisme auquel elle avait été confrontée. Une école d'art lyrique porte désormais le nom de Jessie Norman à Augusta, là où tout a commencé.
Jessie Norman dans la Valkyrie de Wagner, c'était en 1989 au Metropolitan Opera de New York. Sous la menace d'une procédure de destitution, après avoir demandé des investigations ukrainiennes sur Joe Biden, Donald Trump fait monter la surenchère verbale. Il a même suggéré hier de faire arrêter un élu démocrate pour trahison. Il se voyait déjà commissaire européen et leur audition devait avoir lieu aujourd'hui, mais elle a été annulée. Hier, les candidats roumains et hongrois ont été rejetés par la commission des affaires juridiques du Parlement européen pour cause de conflits d'intérêts. La candidate désignée par le gouvernement roumain devait s'occuper des transports. Celui choisi par la Hongrie, László Trocsányi, avait été proposé pour être commissaire à l'élargissement. Selon Budapest, son éviction est un lynchage politique, Florence Labruyère.
C'est un complot de Bruxelles. C'est ainsi que le gouvernement hongrois explique l'échec de son candidat, László Trocsányi. Si ce dernier a été recalé, c'est à cause des libéraux de gauche qui dominent les institutions européennes, a affirmé le journal de la télévision publique hongroise, totalement contrôlé par le gouvernement. Les libéraux veulent ouvrir l'Europe aux étrangers et ils ont puni le candidat hongrois parce qu'il a défendu la politique anti-migrant de Viktor Orban. Pas un mot sur les véritables raisons du veto des eurodéputés. Ces derniers soupçonnent László Trocsányi de conflit d'intérêts. Le cabinet d'avocats qu'il dirige a conseillé le ministère hongrois de la Justice au moment où il était ministre. De plus, Trocsányi a facilité le transfert vers Moscou de 2 citoyens russes, des trafiquants d'armes, aux grandes dames de Washington qui souhaitaient leur extradition vers les États-Unis où les trafiquants sont recherchés. Enfin, si les eurodéputés ont brandi un carton rouge, c'est aussi parce que, en tant que ministre de la Justice, Trocsányi est à l'origine de plusieurs lois controversées. L'une a mis les ONG sous contrôle, l'autre a permis de chasser de Hongrie une institution américaine, l'Université d'Europe centrale. Le veto des eurodéputés est assurément un camouflet pour Viktor Orban. Mais ce dernier a jugé plus sage de proposer un autre candidat, l'ancien ambassadeur hongrois à Bruxelles. Un choix plus consensuel qui montre que Viktor Orban tient avant tout au poste de commissaire à l'élargissement.
La concurrence aura eu raison d'elle. La compagnie française XL Airways annule tous ses vols. L'entreprise à Bakou attend en fait une décision de justice sur une éventuelle reprise ou sur une liquidation. Elle paye une mauvaise stratégie économique. C'est ce que souligne ce matin Loïc Tribault-Laspierre, délégué général au Centre d'études et de prospectives stratégiques. Il est spécialiste du secteur aérien.
XL Airways, c'est tout d'abord le fait d'une compagnie qui s'est développée avec une insuffisance, biologique. En l'occurrence, une sous-capitalisation ne lui permettant pas de faire les investissements d'avenir, évoluer dans un univers hyper concurrentiel et surtout dans un contexte où le cours du kérosène ne cesse d'avoir des effets yo-yo. Puis après ça, des erreurs stratégiques et puis la mauvaise appréhension et compréhension d'un univers de plus en plus concurrentiel. Donc c'est la somme de ces ingrédients qui amène au fait que XL Airways aura les ailes pliées. On est au début d'une série noire pour l'aérien. Le secteur de l'aérien va connaître une forte déflation au niveau, de ses compagnies. Alors, il y a toujours ce judicieux paradoxe de dire il y a le nombre de passagers augmente, mais la compétition est rude, il y a trop d'acteurs et des prix ont été bradés. Il y a quelques mois, Emirates avait des résultats qui étaient en berne, la grande compagnie. Donc, pourquoi voulez-vous que des toutes petites compagnies qui se font d'ailleurs une guerre acharnée puissent effectivement s'en sortir alors que des majeurs sont à la peine?
C'était Loïc Tribault-Laspierre, interrogé pour France Culture par Diane Berger. Voilà maintenant une bataille qui n'en finit pas entre Airbnb et la ville de Paris. La justice ne devrait finalement pas trancher aujourd'hui. Le 21 mai dernier, déjà le procès intenté par la mairie de Paris contre la plateforme de location, déjà ce procès avait été renvoyé à aujourd'hui. Mais la ville de Paris attend encore une décision de la justice européenne et elle pourrait donc demander le renvoi, Manon Vautier-Cholet.
Au cœur de cette bataille judiciaire qui dure depuis plusieurs mois, les plus de 1000 logements parisiens proposés à la location sur Airbnb et qui ne sont pas en règle avec la loi Elan selon la mairie de Paris. Depuis novembre 2018, la loi française limite les possibilités de louer un logement à Paris à 120 nuitées par an via Airbnb, soit 4 mois. Elle oblige aussi les loueurs à se déclarer en mairie avec le CE à un numéro d'enregistrement. Les procédures judiciaires se sont multipliées, dont Airbnb sort pour le moment vainqueur, mais la Cour de cassation a saisi la Cour de justice européenne pour statuer sur un point précis. Elle doit dire si la plateforme est un fournisseur de services ou si ça relève de la liberté de chaque citoyen de louer son bien. Et l'enjeu est de taille. Paris réclame plus de 12 millions d'euros d'amende à Airbnb. L'Europe doit dire si ces sanctions prévues par le droit français sont bien conformes au droit européen. On attend encore cette décision de justice, d'où la demande de renvoi formulée par la mairie de Paris que le tribunal devrait logiquement lui accorder.
La qualité de l'air n'est pas en cause, affirme Édouard Philippe qui s'est rendu hier soir à Rouen, 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol. Le Premier ministre a voulu se montrer rassurant face à une population encore inquiète et exposée à la pollution. Pour les agriculteurs, le gouvernement garantit une indemnisation totale face aux produits jetés, touchés par l'incendie et par la fumée qui s'en est dégagée. Après une session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui se penchait la semaine dernière sur le projet de loi bioéthique et la PMA pour toutes votée par les députés, cette semaine, la nouvelle session ordinaire débute officiellement, une session synonyme de nouveauté pour les députés français, puisqu'un nouveau règlement entre en vigueur à l'Assemblée, Pierre Neveu.
Le premier grand changement va concerner la séance des questions au gouvernement. Désormais, il n'y en a plus qu'une. Elle commence à 15h et se prolonge jusqu'à 17h. C'est donc le 2-en-1 qui est proposé aux députés. Et pour donner du rythme à cette séance de questions-réponses, le règlement définit un nouveau cadre. 26 questions, dont les 2/3 posées par les groupes d'opposition. Le groupe Les Républicains, par exemple, disposera d'un créneau de 7 questions hebdomadaires, contre 5 jusqu'à présent. Mais la grande nouveauté, c'est qu'un droit de réplique est désormais autorisé à l'auteur de la question. Les députés se réjouissent. Ils vont pouvoir répondre à un ministre, dénoncer ses effets de manche ou autres approximations. Cela nous promet de belles joutes oratoires improvisées, sachant que les membres du gouvernement pourront eux aussi répliquer aux députés, mais à condition que tout le monde respecte bien le timing. 2 minutes, questions et réponses comprises. Mais ce qui a fait débat lors de la discussion de cette modification du règlement au mois de mai, c'est la révision du temps de parole accordé aux députés lors de la discussion générale d'un texte de loi. Pour que les débats ne s'éternisent pas, les prises de parole ne seront désormais réservées qu'à un seul orateur par groupe. On redoute donc une prise de parole monolithique. autre inquiétude, elle concerne les amendements identiques. Imaginons un amendement déposé par la France insoumise et par les Républicains. Eh bien, il y aura le même texte, mais pas la même justification. D'où cette remarque d'un député de droite. On risque un affaiblissement du débat parlementaire.
Des centaines de personnes étaient réunies hier sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris. Un dernier hommage à Jacques Chirac qui a ensuite été inhumé dans l'après-midi au cimetière du Montparnasse à Paris toujours. Des pluies parfois orageuses vont traverser le pays ce mardi. D'abord sur un grand quart nord-ouest pour gagner ensuite les Alpes. Température plutôt homogène ce matin avec 17 degrés en moyenne au nord de la Loire. Entre 19 et 22 au sud. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Deux expositions, Francis Bacon au Centre Pompidou et Le Gréco au Grand Palais à partir du 16 octobre. Deux expositions, Jacques, sont l'occasion pour vous d'une réflexion sur le pouvoir des images.
Oui Clara, le Centre Pompidou a choisi l'angle littéraire d'ailleurs pour exposer les deux dernières décennies de la carrière de Francis Bacon décédé en 1992. Et il est vrai, comme le souligne Itzhak Goldberg dans le Journal des Arts, qu'à partir de 1972, on constate une mutation stylistique chez Bacon à la recherche d'une peinture immaculée. Sinon, l'univers bien connu du peintre est partout présent, un théâtre de la cruauté où des êtres sont confrontés à l'insoutenable, les personnages déformés, les visages distendus, les couples unis et désunis, les formes organiques qui perdent leurs contours, les voluptueux empattements d'un pinceau lourdement chargé forment un espace où la matière picturale se confond avec les amas de chair. Fin de citation. Les références littéraires du peintre sont donc évoquées, les tragédies d'Eschyle, la poésie d'Eliot, les romans de Conrad ou les écrits de Michel Léris et de Georges Bataille. Ce dernier est sans doute d'ailleurs celui dont la pensée consonne le mieux avec l'inspiration érotiquement trouble de Bacon, tout en rappelant des archétypes quasi universels. Ainsi, le thème iconographique de la crucifixion et le format du triptyque qui lui est lié. L'artiste refusait cependant de voir dans ses œuvres une forme d'illustration, tout en admettant que ces images archétypiques avaient ouvert les valves de des sensations. Dans une belle et érudite méditation sur le composé instable des images entre mémoire et présent qui viennent paraître au PUF sous le titre « Nymphe », Giorgio Agamben revient sur ces figures mythologiques que la tradition à la fois picturale et théologico-philosophique a érigées en symbole du pouvoir paradoxal des images. En l'occurrence, l'aspect spectral de toute image, peinture ou photographie, qui remue nos consciences en nous faisant toucher du doigt le phénomène mystérieux du temps qui passe, a été théorisé par le philosophe et alchimiste du XVIe siècle Paracelse, et notamment sur le cas de figure des nymphes, divinités associées à la nature, en particulier à l'eau, les ondines. Elles ne sont pas d'origine humaine, tout en présentant des formes plus qu'humaines grâce auxquelles elles peuvent s'accoupler et engendrer. Paracelse se rattache ici à une autre tradition, plus ancienne, note Agamben, qui liait les nymphes au règne de Vénus et à la passion amoureuse et qui est sans doute à l'origine du terme nymphomane. Les nymphes sont une sorte d'ombre ou d'image qui représente pour les poètes de l'amour comme Dante le moment où le fantasme communique avec l'intellect. Pardon. Dans quelques passages décisifs de la Divine Comédie, notamment le Purgatoire, où elle constitue une sorte de seuil entre les paradis terrestres et célestes, le poète appelle nymphe l'objet de l'amour, lequel reste exposé au risque de l'angoisse et du manque. C'est ainsi qu'au terme d'un parcours qui va de l'exposition vidéo de Bill Viola au Getty Museum de Los Angeles, intitulée Passion, aux recherches d'Abby Warburg sur la persistance rétinienne et la vie posthume des images, passant par Boccace et Walter Benjamin, Giorgio Agamben conclut son histoire de la relation ambiguë entre les hommes et les nymphes comme celle de leur difficile relation avec les images. Je cite, « Les images sont le reste, la trace de ce que les hommes qui nous ont précédés ont espéré et désiré, craint et refoulé. » Ces seins blafards et extatiques se contorsionnant sous des ciels électriques ont inspiré autant Jackson Pollock que Pablo Picasso, résume Daphné Bétard dans un article du magazine Beaux-Arts à l'occasion de l'exposition El Greco qui s'ouvre au Grand Palais le 16 octobre, la première rétrospective française. De ces délires extatiques, on ne peut oublier les figures déformées ou en proie à la panique, dépeintes dans des couleurs vives, presque fluorescentes, dans des compositions dramatiques et théâtrales. Ces couleurs, donc, c'est la trace de son passage à Venise où le colorito triomphe sous les coups de pinceau audacieux de Titien, Tintoret, Véronèse. Venu de Crète, le peintre va triompher dans l'Espagne du siècle d'or et de la contre-réforme. L'article comporte l'analyse d'une œuvre, la vision de Saint Jean, vision d'Apocalypse, qui évoque notamment l'art de la contre-plongée extatique pour exprimer la transcendance, les ciels si caractéristiques de Gréco, chargés, tourmentés et tout en contraste, semés de faisceaux de lumière blanche, faisant écho au corps livide des martyrs, figurent ici la colère de Dieu. La dernière livraison de la revue Dada, la première revue d'art que vos enfants peuvent partager avec vous, est consacrée à El Greco, un dossier très complet qui évoque aussi le rôle de la couleur, notamment dans la vision de Saint Jean, mais également les démêlés du peintre avec les autorités ecclésiastiques, principales commanditaires à l'époque, souvent choquées par ses audaces, sur un marché de l'art très concurrentiel qu'elle dominait complètement. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Au sommaire aujourd'hui, Pékin veut profiter du 70e anniversaire de la République populaire de Chine pour une démonstration de force.
Oui, il est midi 45 à Pékin et les cérémonies viennent de commencer par un discours du président chinois. Rien ne peut ébranler les fondations de notre grande nation. Rien ne peut empêcher la nation et le peuple chinois d'aller de l'avant, a déclaré Xi Jinping devant la porte Tiananmen, à l'endroit où 70 ans plus tôt, Mao Tse-tung proclama la fondation de la République populaire de Chine après une longue et très violente conquête militaire. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient abandonné les nationalistes chinois et leur ancien allié Chiang Kai-shek, laissant les communistes de Mao Tse-tung et des par Staline prendre les villes chinoises les unes après les autres. C'est donc cet épisode fondateur que va commémorer le parti communiste aujourd'hui, fort aujourd'hui de 90 millions de membres. À qui s'adresse cette démonstration de force d'aujourd'hui dans le tout Pékin, aux Chinois ou au reste du monde? Bonjour Sophie Boisseau-Durocher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse associée au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, alors spécialiste de l'Asie du Sud-Est essentiellement, mais vous revenez d'un séjour en Chine en plein préparatif de la célébration des 70 ans du régime communiste. Et vous avez notamment vu ce qui se préparait comme défilé militaire, l'importance que lui accorde le régime de Xi Jinping.
Je dois dire que depuis plusieurs semaines, la Chine entière ne bat que pour cette journée du 1er octobre, cette parade, ces feux d'artifice ce soir. Donc c'est véritablement une démonstration de puissance à laquelle nous convient les Chinois pour célébrer ensemble cette proclamation de la République populaire de Chine et puis pour célébrer ensemble l'avènement de la nouvelle Chine.
Le régime a pour l'occasion réquisitionné des parcs, un stade, des terrains de tennis, a pendant les répétitions érigé des palissades de métal dans toute la ville, vous avez dû les voir.
Absolument.
Vous ne puissiez pas voir ce qu'il se passait derrière. J'imagine que vous n'êtes pas passé en revanche, parce qu'il n'est pas encore ouvert, par le nouvel aéroport géant au sud de Pékin, qui n'a rien à voir avec les 70 ans, mais qui devait quand même être à peu près livré pour cette année-là.
Il a été inauguré la semaine dernière par Xi Jinping en personne, mais sur un vol intérieur. Donc il n'est pas encore ouvert à l'international.
C'est un aéroport énorme dont les observateurs à l'étranger se demandent un peu pourquoi maintenant, pourquoi ici, à 42 kilomètres.
Tout simplement parce que le tourisme est booming en Chine, il se développe à une vitesse vertigineuse et que donc les autorités estiment qu'il est temps de doter la capitale d'un aéroport ultra moderne, ultra performant et puis éloigné de la capitale, il sera 42 kilomètres pour éviter tous les effets de la pollution.
Voilà, avec un immense aérogare cuivré en forme d'étoile de mer. L'aéroport doit accueillir 72 millions de passagers par an pour un seul terminal à l'horizon 2025. Il disposera de 8 pistes, dont une à usage militaire. Alors, Sophie Boisseau-Durocher, qu'est-ce qu'on sait, pour revenir sur l'aspect militaire de cette parade, qu'est-ce qu'on sait des nouvelles armes que la Chine va présenter aujourd'hui? Ces nouvelles armes utilisées par l'armée populaire de libération, ça doit être un des temps forts de la journée.
Oui, alors d'abord, il y a un premier point sur lequel il faut insister, c'est le lien entre le parti communiste et l'Armée populaire de libération. Il y a quasiment un lien de fraternité. L'un s'appuie sur l'autre. Donc c'est vraiment important d'associer cette armée à cette journée et de lui donner une place prépondérante. Donc premier point. Deuxième point, montrer également toute la puissance actuelle et à venir de la Chine, à la fois sur le plan qualitatif, on va avoir une parade avec environ 150 000 militaires, avant d'avoir quelques 200 000, je crois, civils. Donc, montrer que le niveau de préparation de l'armée ne faiblit pas en cas de conflit, l'armée de libération est prête à affronter une puissance de la taille des États-Unis. Et puis, sur le plan qualitatif également, et ça c'est très important, puisque effectivement, on a annoncé que de nouveaux systèmes d'armes seraient présentés à l'occasion de cette parade, notamment des systèmes d'armes dans le domaine balistique, des missiles, des nouveaux missiles. Un missile, semble-t-il, capable d'atteindre les États-Unis, c'est-à-dire avec une portée de 12 à 14 000 km, et puis également des drones de reconnaissance supersonique qui permettraient de soutenir les projections de puissance chinoise. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que au final, l'armée chinoise, qui dispose quand même du deuxième budget mondial de la défense, l'armée chinoise est un des piliers pour retrouver la grandeur de la Chine.
Cette démonstration de puissance, Sophie Boisseau-Durocher, à qui s'adresse-t-elle? Est-ce que c'est aux Chinois qu'il s'agit de montrer que, comme l'a dit Xi Jinping en ouverture des cérémonies, rien ne peut ébranler les fondations de la nation chinoise, ou est-ce que c'est une démonstration au reste du monde, tous ceux qui voudraient voir la Chine s'affaiblir, à commencer par les États-Unis que vous avez cités et leur politique de sanctions commerciales?
Alors, il est évident que c'est aux deux, c'est-à-dire à la fois il y a un message intérieur, d'abord de flatter de façon très légitime d'ailleurs le patriotisme chinois et de resserrer les rangs derrière Xi Jinping qui est parfois peut être contesté, voire critiqué, et puis d'autre part à l'égard du monde extérieur, d'une part à l'égard des ennemis potentiels, comme je l'ai dit, montrer que l'on est prêt et que l'on n'a pas peur et que la garde ne baisse pas, et puis d'autre part montrer également aux alliés potentiels qui sont dans une situation un peu flottante à l'égard d'éventuelles alliances sécuritaires avec la Chine, que la Chine assume ses responsabilités et qu'elle est prête à assurer la protection des pays alliés.
Quels pays, par exemple?
L'Asie du Sud-Est est en première ligne, l'Afrique également. Donc voilà, il y a là véritablement un message important. Ce sont pour l'instant des pays qui sont encore dans le système d'alliance américain, qui s'interrogent après les incertitudes et les turbulences de la période Trump et qui aujourd'hui pourraient être tentés de confier une partie de leur sécurité à la Chine.
On dit qu'au sein du Parti communiste chinois même, les dissensions commencent à se faire ressentir sur des questions de politique internationale, que ce soit sur la crise à Hong Kong, qui là est bien intérieure, mais également la gestion de la guerre commerciale avec les États-Unis. On dit aussi que la Chine est depuis quelque temps très sensible à son image, aux critiques faites notamment par les États-Unis et l'Allemagne sur sa gestion de la crise de Hong Kong. Qu'est-ce qu'on en sait de ces dissensions qui sont nées quand en gros, quand Xi Jinping a supprimé la limite du double mandat qui avait cours jusque-là pour le président chinois et qui donc lui donne mandat illimité quoi, pour les années à venir?
Alors effectivement, les critiques ne datent pas d'aujourd'hui, hein. Elles datent du dernier congrès et cette levée des limites et le fait que la collégialité qui prévalait jusque-là au sein du Parti communiste ait été quand même réduite au profit d'un pouvoir beaucoup plus centralisé a fortement déplu à certaines factions du Parti communiste. Vous l'avez dit, 90 millions de membres, il y a une 5 millions qui font le cœur de ce parti et puis de ce pouvoir et puis encore un peu moins quand on est près de Xi Jinping. Donc au fond, quelques factions qui se disputent. On a vu l'année dernière au moment des chiffres sur la baisse de la croissance en début du mois de février 2019. On a vu que certains critiquaient ouvertement la politique économique de Xi Jinping. Et je pense par exemple au fils de Deng Xiaoping qui a effectivement émis quelques réserves. Donc on sent bien qu'il y a une effervescence qui est en train d'apparaître. On le sent également à propos de toutes les actions extérieures qu'a lancé Xi Jinping, notamment les routes de la soie, notamment les investissements directs à l'étranger, en Afrique. Tout cela coûte beaucoup d'argent et les Chinois, certains Chinois, pensent que cet argent serait mieux utilisé à l'intérieur. La Chine prétend être encore un pays en développement et donc il est nécessaire de soutenir ce développement plutôt que d'aller développer des pays dont on ne sait pas très bien s'ils sont des alliés ou pas.
Bon, cette commémoration des 70 ans de la République populaire de Chine, c'est évidemment une journée très importante pour les Chinois, pour le président chinois, mais c'est un tremplin, dit-on, pour les 100 ans de la République populaire dans 30 ans, et la Chine aspire à de grandes ambitions se donne encore 30 ans pour devenir la grande puissance, la première puissance mondiale,
oui,
en 2049.
C'est pas cette date de 2019 qui compte, c'est celle de 2049 où là, pour le 100e anniversaire, la Chine prétend qu'elle sera la première puissance mondiale. Et donc là, on rentre dans un jeu et dans un calcul stratégique qui est risqué pour le président Xi, qui est d'assurer que la Chine sera capable d'obtenir et de jouer pleinement ses responsabilités de première puissance mondiale. Alors, on peut s'interroger, et les observateurs étrangers ne manquent pas de s'interroger, sur les contradictions du discours de Xi Jinping et sur les contradictions entre la réalité chinoise et la projection chinoise, notamment le fait que le président Xi Jinping prétend aujourd'hui baser l'économie chinoise sur le secteur de la recherche et du développement, donc sur l'innovation, quand la créativité est fortement bridée par des contraintes politiques de premier plan, notamment le contrôle social, dont on sait qu'il est de plus en plus prégnant en Chine aujourd'hui.
Eh bien, tout ça, vous en parlez dans le livre que vous aviez coécrit il y a quelque temps avec Emmanuel Dubois-Duprisc, La Chine est le monde, la Chine est le monde, avec le S entre parenthèses, aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup Sophie Boisseau-Durocher d'être venue ce matin dans nos studios.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
François Mitterrand est élu président.
Une série d'espionnage au cœur des services secrets des années 80. Projet Orloff, la nouvelle fiction de France Culture en podcast original.
Très bien, passez-moi la communication dans le salon de bibliothèque.
Hector Préambou. Un agent disparaît, crise à l'Elysée, ambassade sur écoute, course-poursuite de Londres à Genève jusqu'aux portes du désert algérien.
J'ai potentiellement un énorme scandale d'État.
Projet Orloff, série d'espionnage haletante, entièrement tournée en décor naturel, sur franceculture.fr, à vos casques.
6h57, vous écoutez bien France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
C'est l'heure de votre humeur du jour, vous faites un peu une tête d'enterrement. Guillaume Erner, les enterrements de chefs d'État, c'est pas drôle.
Mais en plus, il faut souffrir les répétitions jusqu'à l'épuisement de la formule d'Ernst Kantorowicz. Les deux corps du roi devenus une formule creuse, brandie comme un trophée par quantité de commentateurs épuisés par le deuil. Le problème, c'est qu'en évoquant les deux corps du roi, l'historien allemand Ernst Kantorowicz pensait à tout, sauf à l'enterrement de Jacques Chirac. Alors qui était Kantorowicz ? Un personnage fascinant, juif, né en Allemagne. À la fin du 19e siècle, mort aux États-Unis en 1963, ultra-conservateur, sa biographie de Frédéric II fut l'un des livres de chevet d'Hitler. Il refusa d'être un arien d'honneur, émigra aux États-Unis, où il refusa, là, partant de maccartisme, de faire allégeance au régime, malgré son anticommunisme radical. Kantorowicz était un médiéviste et sa formule des deux corps du roi faisait sens pour l'Angleterre des Tudors au 15e siècle, soit 5 siècles avant JC, avant Jacques Chirac. Kantorowicz tente de comprendre comment l'on est passé alors du théologique au politique, comment le pouvoir, qui appartenait au cours du Haut Moyen-Âge à l'Église, a été progressivement dérobé par le pouvoir politique, donc laïque. Les deux corps du roi, c'est cette opération de prestidigitation où une fiction juridique, le roi est mort, vive le roi, permet permet au souverain de réunir au sein d'une même personne, la sienne en l'occurrence, un corps physique et un corps mystique, symbolisant lui-même l'homogénéité corporelle de la nation. Les théories qui prévalaient à l'époque étaient des théories organicistes de la société. Elles se représentaient la société comme un corps. Oui, mais voilà, où sont les deux corps aujourd'hui? Il y a le corps physique de Jacques Chirac, dont nous ignorons tout, obscurci qu'il est par 50 ans de glose de communication politique, de Jacques Chirac a changé, passant de Reaganien à radical socialiste, 50 nuances de Jacques Chirac au moins. Quant à son corps mystique, il n'a jamais assuré la cohésion de la nation. Si les Français se rassemblaient autour de leur chef de l'État, ça se saurait. Et surtout, ça supprimerait toute idée de politique. Nous ne sommes plus à l'époque des Tudors, où le roi avait par nature 100% d'approbation. Voilà pourquoi il faudrait mieux enterrer les deux corps du roi avec nos vieux souverains pour s'incliner devant la pensée subtile et donc vivante d'Ernst Kantorowicz.